Bienvenue sur la chaîne de podcast d'Elizen.fr. Bonne écoute et surtout, bonne pratique.
Alors, merci pour ce beau pupitre. Moi, j'ai l'eau, il est tout neuf. C'est sérieux, hein? Je manque de quelques centimètres, vous vous rendrez compte. Voilà. L'enseignement alors de ce soir va porter sur les six paramitas, c'est-à-dire les six vertus principales, les six qualités qui nous permettent d'aller au-delà de ce qu'on est en train de faire, de progresser, on pourrait dire, sur la voie et dans nos vies. Les premières traces de ces enseignements, donc ça vient du Bouddha, bien sûr, hein. C'est un enseignement bouddhiste, mais qui est tout à fait universel, vraiment adapté aux vies modernes. Et les premières traces qu'on a retrouvées, c'est, on les trouve dans les premiers écrits, en fait, qui datent pas vraiment du moment du Bouddha, parce que lui n'a pas écrit de texte, hein, il a donné des enseignements oraux. Et puis, quelques siècles plus tard seulement, ça a été pris par écrit. Alors, ils avaient à l'époque une très grande capacité mémorielle, hein. On a un peu baissé du fait des ordinateurs, puisque la mémoire du monde est disponible en deux clics. Mais à l'époque du Bouddha, les gens avaient tout un tas de moyens mnémotechniques pour pouvoir continuer à se raconter des choses, etc. Et cet enseignement donc, a été pris par écrit, noté par écrit au Sri Lanka, à Ceylan, donc quelques siècles après le décès du Bouddha. Et d'ailleurs, le Bouddha, lui, parlait pas, donc c'est ce qu'on appelle le canon Pali. Donc le Pali, c'était la langue du Sri Lanka. Et le Bouddha lui-même ne parlait pas Pali, il parlait une langue, un dialecte en fait, qu'on appelle un Prakrit, c'est une langue ancienne. Voilà. Et plus tard, ces enseignements ont été aussi retranscrits en sanskrit, vous avez peut-être entendu ce mot déjà, là je voulais dire en sanskrit, c'était donc la langue d'Inde cette fois-ci, ça a voyagé les enseignements. Et en Inde, donc les écrits ont été faits en sanskrit. Alors, paramita, c'est donc les vertus qui nous permettent d'aller au-delà, param, d'atteindre l'autre rive, c'est-à-dire d'avoir vraiment un objectif élevé pour nos vies. On les appelle aussi les six perfections. Alors, quand on entend ça, des fois, on se dit tout de suite, mais oulala, moi, ça, c'est pas pour moi. Hein. Le truc, ça a l'air vraiment très, un peu inatteignable. Et c'est donc des guides pour nos vies quotidiennes, avec en idée quand même que c'est un chemin qui se fait progressivement. Voilà. Ce dont je vais vous parler juste après, on ne s'attend pas à ce que demain, vous mettiez tout en pratique directement. Ça va ? Voilà, je précise ça parce qu'on a dans le bouddhisme une cérémonie qu'on appelle la prise de refuge. Et ça, c'est quand un pratiquant décide de devenir bouddhiste, en fait, après avoir pratiqué longtemps. C'est pas obligatoire, mais certains le font. Et lorsqu'il y a la prise de refuge, on reçoit 10 préceptes qu'on est censé suivre dans nos vies. Alors, on reçoit ne pas tuer, ne pas voler, ne pas convoiter, ne pas s'intoxiquer, et des trucs très difficiles comme ne pas critiquer, ne pas se mettre en colère, etc., etc. Et alors des fois, la première réaction des gens, c'est « Ah non, mais je fais pas la cérémonie parce que ça, j'y arriverai jamais. » Vous imaginez la montagne à gravir. Et donc, il y a l'idée qu'en fait, c'est des objectifs, c'est des intentions, comme de diriger nos vies vers ça, mais que bien sûr, on se donne un peu de temps pour les atteindre. Plusieurs vies, peut-être. Voilà, alors moi, quand j'ai commencé le bouddhisme, j'étais un peu vite, alors 7-8 mois après avoir découvert la pratique de méditation, je me suis installée au monastère. J'avais 26 ans, et puis alors avant de partir, je me suis dit, je pars dans un monastère. Ma vie va changer. Et donc, j'ai vendu ou donné tout ce que j'avais. Mes livres, mes habits. Je deviens bouddhiste dans un monastère. C'était vraiment... Voilà. Et donc, je suis arrivée avec pas grand-chose. Et puis, au bout de quelques mois, je me suis aperçue que la vie monastique, c'était pas très facile. C'est-à-dire que y a des conflits avec les gens, que il faut se lever tôt, qu'il n'y a pas forcément ce qu'on avait envie de manger. Enfin, c'est un point important, les repas. Nos idéaux sont très hauts, mais que en fait la réalité, tout d'un coup, c'est le... voilà, on se confronte avec le réel. Et puis pour me détendre, alors j'ai allé au Super U. C'est-à-dire que pas tous les jours, hein. J'étais non plus pas très riche, mais de temps en temps je me disais je vais acheter des choses. Alors je savais pas forcément ce que j'allais m'acheter, mais ça me détendait de me dire que j'allais pouvoir un peu consommer et combler une sorte de manque ou de difficulté intérieure grâce à des achats au Super U. Il y a des autres qui le font au solde, hein. Ne rigolez pas trop de moi parce que voilà. Et donc avec cette idée que nos comment dire, les chemins qu'on peut emprunter quand ils sont un peu trop radicaux ou trop d'un moment à l'autre, tac tac, je vais changer de vie. Des fois ça demande de prendre le temps d'avancer. Donc ça, c'était les mises en garde avant que je vous dise les paramétas. Donc la première paramita, je vais déjà vous les énumérer, c'est le dana paramita, c'est l'idée de donner comme ça de façon complètement généreuse, d'aimer sans condition et d'avancer dans la vie avec le cœur ouvert. La deuxième paramita, c'est sila. Et ça, c'est l'éthique, c'est le fait d'intégrer dans sa vie des paroles justes, des actes justes, un mode de vie juste, une entraide entre les personnes et l'idée de la communauté de destin humain. La troisième paramita, c'est Kshanti ou Kshanti, et ça, c'est la patience. Alors ça, non plus, c'est pas facile. Hein. La patience, l'indulgence. Le fait de comprendre les autres et de se comprendre soi-même. La quatrième paramita, c'est virya. Alors, c'est l'idée de laisser l'énergie circuler en nous et de développer le sens de l'effort, du courage, de l'endurance. Voilà. La cinquième paramita, c'est dhyana. Alors ça, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, on en a déjà... commencer à pratiquer une d'entre elles. Dhyana Paramita, c'est la méditation et la concentration. Et la dernière, c'est Prajna. Prajna, c'est, on pourrait dire, c'est cette vertu, cette paramita, elle couvre toutes les autres, c'est l'idée d'agir avec sagesse et avec discernement. Avoir une intention juste, avoir une vision ou une intuition tout à fait fluide par rapport aux cinq autres. Alors maintenant, je vais un petit peu vous donner quelques éclairages sur ces six paramitas, avec l'idée que peut-être ça, vous pouvez vous en souvenir dans les prochains jours et que ça pourrait un petit peu se diffuser dans nos vies. La première paramita, c'est Dana. Alors Dana paramita. Au monastère où j'habite, on a construit il y a 10 ans un nouveau bâtiment qui a 3 étages. Donc, tout en bas, c'est l'atelier. Le rez-de-chaussée, c'est le dojo, la salle de méditation. Et le premier étage, la salle des cérémonies. Et cette maison, le maître l'a appelée la maison du dana, avec l'idée que la maison du don, que toutes les activités qui se passent là, c'est en fait un don pour soi-même et pour tout l'univers. Et dans ce don, autant préciser tout de suite qu'il y a un côté actif et un côté passif ou quelque chose qui est du domaine du non-agir. Car en effet, notre idée du don, c'est pas de donner à tout prix. Parfois, trop donner, vous aurez constaté ça, c'est un peu, délicat ou pas forcément bienvenu. C'est l'exemple, par exemple, d'une mère qui va tellement encourager ou donner des choses à son enfant ou soutenir que ça va être trop et que l'enfant n'a plus la place pour découvrir ses propres capacités ou pour se déployer de façon harmonieuse. C'est aussi un amoureux, par exemple, ou une amoureuse qui est tellement gentil avec nous tout le temps, tellement serviable, tellement attentionné du matin au soir, qu'à la fin, ça devient un peu pesant, n'est-ce pas? C'est bien au début, c'est l'homme idéal. Puis à un moment donné, ça commence à être un peu lourd parce que dans cette générosité et dans ce don, il y a un besoin d'amour qui est tellurique. Et alors là, c'est vraiment que l'intention qui est en amont de ce don, c'est « Aime-moi, s'il te plaît !» Donc là, par exemple, dans ces deux exemples, il serait intéressant qu'il y ait l'idée de non-agir ou de non-action. Et cette non-action, dans le bouddhisme, elle est assez importante. C'est le fait de faire confiance aux choses. De donner, certes, c'est-à-dire on ne va pas devenir complètement égoïste dans notre coin, c'est pas du tout ça que je dis, mais aussi de faire confiance à l'énergie naturelle des choses, au déroulement simple des circonstances. Par exemple, d'être suffisamment connecté à soi en temps réel, ce que vous venez d'apprendre pendant la méditation, pour savoir en temps réel les émotions qui vous animent. De cette manière, on comprend très vite notre intention. L'idéal, ce serait ça. C'est du matin au soir de se ressentir, de sentir ce qui nous anime pour savoir si l'émotion ou le don qu'on offre au monde, il est, j'allais dire pur, mais c'est un peu un jugement, mais il est dénué de besoin. Ça vous parle, ça? C'est vraiment libérer l'autre. On peut aider sans avoir une emprise ou sans mettre son pouvoir sur l'autre, mais de façon très fluide. Et donc ça demande beaucoup de sagesse, bien sûr. C'est pour ça que la sixième paramita, prajna, la sagesse, elle a besoin d'influencer toutes les autres. Pour autant, des fois, on rencontre dans nos vies des gens qui sont des exemples assez inouïs. Et moi, je crois beaucoup à la vertu de l'exemple pour l'apprentissage. Et il y a un mois, il y a quelqu'un qui s'est retrouvé, qui devait venir au monastère, qui est à 50 km de Strasbourg, une japonaise qui parlait très mal anglais, enfin... Si vous êtes déjà allé au Japon ou en Asie, vous savez que se repérer avec des visuels écrits en lettres romanes, etc., c'est pas forcément le cas, hein, tout est en idéogramme. Et donc si on se met à la place de quelqu'un qui débarque du Japon à Strasbourg, c'est compliqué. Et alors elle a loupé son train, mince alors. Donc elle s'est retrouvée toute seule à Strasbourg, sans train pour pouvoir rejoindre le monastère, sans rien, un soir comme ça, compliqué. Et moi, je m'occupais de sa venue et j'ai contacté un couple qui habite Strasbourg, qui est un couple d'anges. Ils s'appellent Michel et Jerry, c'est un moine et une nonne. Et alors, ils sont complètement disponible dans le sens que avant d'appeler je savais déjà qu'ils allaient dire oui. Ça veut dire que j'avais pas besoin de faire ah, je suis désolée, je vais vous embêter, je sais que vous avez prévu une soirée mais il y a quelque quelqu'un qui est en rade à Strasbourg, est-ce que vous pouvez l'héberger? En fait, c'est ce qu'on ferait des fois. Hein. On se dit, bon, on va embêter quelqu'un au milieu de sa soirée. Et là, j'ai appelé, j'ai fait, on devait avoir une japonaise qui arrive, mais elle est à la gare de Strasbourg. Et la réponse a été, on y va. Et là, je me suis dit, quand même, que... Alors, pour moi, ça a été une prise de conscience assez forte de me dire, mais il y a des gens comme ça. Ça veut dire, c'est possible de tout de suite changer notre envie du moment pour se rendre disponible aux besoins qui étaient présents. Voilà, j'y vais. Voilà. Donc, le don, la paramita du don. Alors, pour résumer cette paramita, on peut donner beaucoup de choses. On peut donner un regard, on peut donner des paroles, on peut donner du silence, on peut donner un gâteau, on peut donner un euro, on peut donner tout ce qu'on veut. L'idée de ce don, ça va être d'être en conscience, c'est-à-dire de savoir, de sentir ce qu'on est en train de faire. La deuxième paramita, c'est l'éthique. Alors, l'éthique prend sa source dans cette idée bouddhiste selon laquelle tout est relié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses qui existent indépendamment par elles-mêmes. On entend des fois l'expression de l'effet papillon, c'est-à-dire que quelque chose qui est fait à un endroit du globe va répandre ses effets de l'autre côté. Tout est relié, c'est-à-dire que, par exemple, là, pour nous, si on n'avait pas d'air pour respirer, notre vie s'arrêterait très rapidement. Ni de lumière, ni des plantes, ni des arbres, ni des insectes, etc. Et ce fait que tout soit relié, ça nous invite, au niveau de l'éthique, à prendre conscience de nos actes. Le mot conscience, on l'entend souvent ce soir. Prendre conscience de l'effet de nos actes, de l'effet de nos paroles, et notamment en ce moment, ce qui me semble crucial, c'est l'effet de nos actes de consommation sur le monde. Alors, je ne veux pas faire de la morale ce soir, c'est pas l'idée, mais juste, peut-être, avant d'acheter des choses, peut-être de se dire, attention, est-ce que cet objet, il est là parce que j'en ai besoin vraiment? Ou est-ce que cet objet, il est là pour combler un manque et me faire sentir mieux, sentir bien? Ou est-il vraiment nécessaire? Je vous propose cette petite réflexion dans vos vies parce que on constate sur Terre qu'il y a une surconsommation de tous les objets, que la planète, elle souffre beaucoup, là. C'est des messages qui apparaissent chaque jour. Et d'un point de vue bouddhiste, on peut décider de prendre ça... de façon tragique, en se disant on est foutu, le monde pourra sa perte, ce qui est une partie du discours qu'on entend actuellement, où on peut se dire que ok, j'entends ce message, alors qu'est-ce que moi je peux faire? Et là, c'est tout de suite un peu plus enthousiasmant, un peu moins déprimant peut-être. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je peux faire, ou plutôt, qu'est-ce que moi je peux non faire? Qu'est-ce que je pourrais ne pas acheter aujourd'hui? Voilà, si vous faites la liste, chacun d'entre vous peut être vraiment un participant du monde du futur. Voilà, une action qui serait donc libérée, je le redis une fois, mais libérée du besoin. Libérer du besoin d'agir ou d'obtenir. Ce qui ne veut pas dire qu'on va arrêter de manger ou de se chauffer ou de se déplacer. C'est pas ça que j'ai dit, parce que bien sûr c'est à relier avec une pratique progressive et à notre mesure. Mais si chaque jour on peut se poser la question de notre empreinte sur le monde, ça pourrait être aussi très intéressant. La troisième paramita, c'est la patience. Oh mon Dieu, quelle grande montagne à gravir. La patience, vous l'avez déjà pas mal fait aujourd'hui, hein. Je pense que certains d'entre vous ont trouvé la méditation longue. Non ? Les anciens, vous avez trouvé ça trop court, bien sûr. Non ? La patience, alors, le contraire, ce serait l'impatience. Vous voyez, c'est un truc qui fait... Mince alors, ça va durer encore combien de temps, ce truc ? Ou bien... Mais ça fait 20 fois que je l'explique, mais il est con ou quoi ? Pas vous, hein. On peut parfois avoir des pensées comme ça qui nous traversent. Alors aussi, au début, j'utilise beaucoup le monastère comme exemple, parce que bon, vu que ça fait 18 ans que j'habite, c'est un peu ma référence, mais... Moi, je suis quelqu'un d'assez tonique, et puis j'aime bien bouger, faire des trucs et tout ça. Et puis au tout début, alors j'étais responsable du nettoyage.
Déjà responsable, je l'aime bien.
Responsable du nettoyage. Et puis alors, il y a plein d'anecdotes là-dessus, mais je vais juste en faire une. Et puis alors, non, j'étais pas responsable, j'étais co-responsable. Alors déjà, ça pour moi, c'était moins marrant. C'est-à-dire que je devais travailler avec quelqu'un d'autre. Et puis mon co-responsable du nettoyage, c'était un moine. Je ne fais pas commentaire sur les notions de ménage entre les hommes et les femmes, parce que sinon je vais me faire engueuler. Mais mon co-responsable, il n'avait pas la même notion de l'hygiène et de la propreté que moi. Alors c'était compliqué, parce qu'en plus c'était quelqu'un de plus âgé, et puis qui pratiquait depuis plus longtemps que moi, donc je devais le respecter, tout ça... Et j'ai eu un peu du mal, et puis je me suis mise beaucoup en colère. Alors, pas contre lui, mais intérieurement. Ça bouillonnait et tout ça. J'essayais de lui mettre souvent des balais près de lui pour qu'il comprenne que bah, c'était quelque chose qui pouvait bouger. Un balai qui n'était pas juste en exposition et des choses comme ça. Et puis, alors, en plus, ce moine, il n'avait pas du tout la même énergie que moi. C'est quelqu'un de lent. Alors, donc il y avait tous les éléments de situation compliquée. Hein. Et il était lent. Alors, quand il faisait quelque chose, ça mettait du temps. Et moi, à côté, j'étais là. Voilà. Et je suis allée voir le maître, parce que je n'en pouvais plus. Et donc, en râlant, hein, bien sûr. On a un endroit comme ça au monastère, ça s'appelle Dokusan, c'est entretien individuel. Je ne voudrais pas enregistrer ce qui se passe là, mais ça doit être terrible. C'est en gros l'endroit où on lâche la pression. Et puis à ce moment-là, il m'a regardé et il m'a dit quelque chose qui m'est resté toujours, c'était qu'en fait, tout le monde n'a pas la même énergie. Alors, je vais en parler juste après de la même énergie. Tout le monde n'a pas la même énergie. Tout le monde n'a pas le même rythme. Et donc, il m'a dit, toi... Faut que t'en fasses trois fois plus et fous-lui la paix. En gros, c'est le zen, c'est un peu cash comme ça. Mais ça m'a fait un électrochoc de me dire que en fait, son effort à lui était peut-être déjà gigantesque. Et moi, je le jugeais par rapport à mes références de mon énergie à moi. Et c'est intéressant parce que quand on arrête de projeter ses propres grilles de lecture sur l'autre, et bien à ce moment-là, certainement, la patience peut apparaître. Du coup, bon, ça m'a détendue assez rapidement. Mais il faut être responsable du nettoyage, c'était quelque chose. J'ai une anecdote qui me revient. Donc je devais donner une instruction à quelqu'un pour nettoyer une salle, mettons comme celle-ci. Et là j'ai dit, surtout, s'il te plaît, tu fais bien dans les coins. Et là la personne, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, comme quoi il faut faire attention à la manière dont on communique, la personne a nettoyé que les coins. C'est drôle, hein? Donc là, j'ai pas d'enseignement bouddhiste qui suit, mais j'avais envie de vous raconter, c'est marrant. La quatrième paramita, l'énergie. Alors l'énergie, on vient d'en parler juste avant, c'est cette énergie qu'on peut avoir et laisser se développer. En même temps, l'énergie, vous avez pu remarquer qu'elle est fluctuante. Il y a des jours où on en a beaucoup, des jours moins, etc. Et par rapport à cette énergie ou à cet effort qu'on peut faire dans nos vies, Maître Vangel, l'abbé du monastère, il propose la pratique suivante, c'est-à-dire de lancer dans nos vies des efforts qui vont demander une énergie, mais qu'on peut continuer longtemps. Et venant de sa bouche, c'est très intéressant parce que la méditation que vous faites ce soir, lui, il la pratique depuis 40-45 ans. Alors là, ça met les choses en perspective. C'est-à-dire, des fois, dans nos vies, on lance des activités, on se remet au tennis, on va faire du footing, etc. Mais avec beaucoup d'énergie d'un coup et sans voir sur le long terme. Et lui, son idée, c'est de réfléchir à installer quelque chose qui sera suffisamment équilibré et tranquille qu'on puisse envisager de maintenir cet effort sur les prochaines années. C'est très précieux parce que la méditation, c'est pas des effets rapides. Alors bien sûr, en sortant d'ici, on se sent bien, etc. Mais les effets profonds, les changements de vie profonds, ça dure longtemps. Ça met des mois ou des années à vraiment s'installer. Et cette notion-là du temps, en fait, je voulais vous en parler juste avant, mais je vais vous en parler maintenant, c'est cette notion du temps et de ce qu'on pourrait appeler l'effort juste ou l'énergie juste, elle est très importante. Dans nos sociétés, souvent, c'est rapide. Vous avez remarqué, c'est très accéléré. Il faut des résultats vite, mesurables et concrets. Sinon, le contrat, vous ne l'aurez pas. Et alors, dans le bouddhisme, ce n'est pas vraiment comme ça. Dans le bouddhisme, on prend le temps. On prend le temps pour apprendre. On prend le temps pour progresser. On prend le temps pour un jour réussir à enfin laisser passer les pensées. Ce jour-là, ouh. Mais des fois, ça prend 3 mois, 6 mois avant d'avoir le résultat. On prend le temps aussi par rapport à cette pratique de la méditation qui se répand dans la société pour l'enseigner. Par exemple, dans mon école, pour pouvoir commencer à enseigner la méditation, donc à faire ce que je fais, il faut environ 15 ans. Voilà, c'est pas je fais 3 stages de pleine conscience et je deviens prof. Hein. Alors, sans vouloir dire que cette pleine conscience n'est pas ok, puisque c'est un très beau bienfait pour la société que la pratique de la méditation se diffuse. Mais en tant que pratiquant, c'est aussi très confortable parce que ce temps qui est laissé à la progression, c'est très doux. Ça veut dire qu'on nous donne aussi du temps. On ne nous dit pas, bon, maintenant... Alors, t'en es où de tes pensées, là? Ça y est, c'est bon, la concentration. C'est aussi très doux pour soi-même de se dire, ok, je vais y aller progressivement, avec patience, et je vais prendre mon temps. C'est rare qu'on ait le temps, hein. Un dernier petit truc par rapport à l'énergie... et à l'effort. Il y a un message qui me plaît beaucoup, moi, de Maître Deshimaru. C'est celui qui a implanté le zen en Europe, qui est arrivé dans les années 60. Il a fait le transsibérien, je crois, et puis tout d'un coup, il a débarqué à Paris, un peu par hasard, avec son coussin sous le bras. Et lui, c'était quelqu'un d'une grande puissance, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et une capacité d'entraîner les gens, de les motiver, assez admirable. Et lui, ce qu'il disait, son fer de lance dans la pratique de la méditation, ça a été chaque jour un tout petit peu plus. Chaque jour un tout petit effort, pas un gros, un tout petit truc en plus. Voilà. Et tout c'est, donc ça c'est doux et c'est possible, ça donne de l'élan. Et tous ces petits trucs accumulés, et ben sur ces 15 ans de présence en Europe, parce qu'après il est décédé, en 15 ans il a créé 130 lieux de pratique. Avec un tout petit peu plus chaque jour. Alors, la cinquième paramita, je ne vais pas trop vous en parler, vous l'avez déjà pas mal expérimenté aujourd'hui, c'est Dhyana. La méditation, la concentration. Au mois d'avril, le 4 avril, l'enseignement portera seulement sur la concentration. Donc là, je vous donnerai plein de trucs, plein de secrets de concentration. Je vous invite à venir si ça vous intéresse. Dans Zazen, dans la méditation, il y a l'importance de pratiquer chaque jour, c'est-à-dire de se faire 5 minutes même, 10 minutes. Pas nécessairement une heure par chaque matin, hein. mais 5 minutes qu'on a se poser assis en posture ou sur une chaise ou où vous êtes à ce moment-là, et puis tac, je baisse les yeux, respiration comme ça. C'est bénéfique aussi ce dhyana, cette pratique de la méditation, de la faire souvent en groupe. C'est-à-dire d'apprendre avec les autres, de créer une communauté comme ça qui apprend ensemble. Ça nous permet de progresser, de se connaître, d'apprendre les uns des autres et de se motiver. Car en groupe, vous pouvez rester une heure, et non, là, on a même fait plus, 1h20 en méditation. Tout seul chez vous, c'est plus dur, hein? Donc si jamais la pratique vous plaît et que vous sentez que c'est pour vous, ben, on vous invite, Angelo, Sylvia, Bernadette, Alain, Sandrine et les autres, à venir chaque semaine. Il y a des enseignements parfois et puis il y a aussi des méditations en silence, donc qui sont les jeudis soirs, avec Bernadette qui va dire quelques petits extraits de textes d'enseignement. Pour vous guider. Donc si jamais cette régularité, comme un rendez-vous avec vous-même, une fois par semaine, c'est très bénéfique pour progresser. Et enfin, la sagesse. Prajna. La sagesse, c'est donc cette dernière paramita qui se diffuse sur toutes les autres. Et on compare cette sagesse, on parle de la compassion et de la sagesse, deux vertus importantes dans le bouddhisme, qui seraient comme les deux ailes de l'oiseau, ou bien le don et la sagesse, c'est les deux ailes de l'oiseau. S'il n'y a que le don, par exemple, sans la sagesse, l'oiseau, il tourne en rond, voire il tombe. Et donc, dans toutes nos activités, ou toutes les choses qu'on met en place dans nos vies, cette sagesse, elle est très très importante. C'est la lucidité de comprendre à partir de quoi on agit. Donc de se connecter, de sentir le corps, de sentir les émotions, de savoir les pensées qui nous traversent, d'en devenir conscient pour laisser après émerger une action qu'on pourrait dire libre de soi. Une action spontanée, libre et sage. Par exemple, un truc très simple, c'est qu'on passe dans le jardin, on voit une plante qui fait grise mine, on l'arrose. C'est tout simple. Il n'y a pas eu de choses très spéciales à faire, c'était une action comme ça, évidente. Au fur et à mesure qu'on pratique la méditation, cette simplicité-là, c'est le mot-clé de la sagesse, c'est simplicité. On la ressent et ça peut guider nos actions. Ouais, elles sont interdépendantes. C'est-à-dire, bien sûr, elles fonctionnent ensemble. Dans nos vies, souvent, on remarque que certaines sont faciles. Il y a des gens que je connais qui sont très patients. C'est comme ça, c'est merveilleux. calme, Olympia. Et souvent, par contre, il manque un peu d'énergie. Donc il y a ces six paramitas, comme ça, bah, on sent bien soi-même lesquels on aurait un peu plus à bosser, non ? Voilà. Mais toutes sont intriquées.
Retrouvez d'autres podcasts ou vidéos sur le site delizen.fr.